Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour à tous, pour tous ceux qui nous rejoignent à 8h passé de 2 minutes, on est dans le MAG de l'IMO. Je suis bien sûr en compagnie de Fabienne Lissac. Ça va Fabienne ?
Oui, bonjour à tous. Et puis les JO commencent, donc nous aussi on est dans les starting blocks.
Exactement. On est en compagnie de Mathieu Dolliveux. On vient d'écouter Jean-Jacques Goldman et l'on n'y peut rien. Titre de soirée, hein, vous nous disiez.
Ah, oh, titre de soirée, puis titre pour une matinale.
Bah oui, c'est vrai. Ça nous a bien lancé. Effectivement, Mathieu, vous êtes directeur associé chez IM Avenir et on va découvrir donc votre portrait tout au long de cette heure. Vous nous disiez là pendant la pub ou plutôt les infos que vous étiez fan de sport, puisqu'on sait d'ici quelques heures, voilà, ce sera la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Vous allez suivre parce que je crois que vous êtes skieur un peu.
Un petit peu, oui. Je pense que le teint le montre.
Alors, on le voit, voilà. On est aussi en vidéo, on le rappelle, hein, pour ceux qui souhaitent nous voir. Mathieu est là, il est tout beau, tout bronzé. Vous
voilà.
Étiez où ?
Du côté de la Plagne, voilà. Hors période scolaire pour pouvoir profiter des bonnes pistes, du soleil avec les amis.
Hors période scolaire, mais pas hors piste ?
Non, pas hors piste. Hors période scolaire, mais pas hors piste. C'est dangereux.
Fabienne, je vous laisse la parole parce que vous connaissiez Mathieu Dolliveux.
Mais oui, parce que cette société IM Avenir, il faut savoir qu'elle est pionnière dans le domaine du conseil en investissement locatif à Paris, dans le Grand Paris. Donc c'est tous les sujets qui bougent en ce moment, qui se développent vite. Donc effectivement, le sillage, le sillon de Mathieu Dolliveux m'avait intéressé. Et ce qui est intéressant, c'est que votre société, elle couvre tous les segments de la recherche de l'appartement en passant par les plans d'architectes. J'aimerais que vous nous décriviez un petit peu, parce que quand on parle d'investissement locatif, on peut mettre plein de choses dedans. IM Avenir, ça sert à quoi ?
Alors, en effet, Fabienne, vous avez complètement raison. IM Avenir, l'investissement locatif est très large, et IM Avenir, l'objectif, c'est d'aider le particulier à réaliser son projet d'investissement locatif, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, c'est un process qui est long, c'est un process qui est fastidieux, c'est parfois compliqué, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'y connaît rien. Bref, l'idée d'IM Avenir, c'est de simplifier cette acquisition immobilière pour le particulier, à savoir, en effet, déjà trouver l'appartement, s'occuper ensuite de l'accompagner chez le notaire, de toutes les formalités, la partie rénovation avec l'édition des plans d'architecte, les travaux en tant que tels, l'ameublement, jusqu'à la gestion locative. Donc c'est un process totalement intégré de A à Z pour que le particulier puisse de manière totalement sereine investir dans un projet d'investissement locatif, qu'il soit à Dubaï, à San Francisco, à Paris, à Lyon, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se laisser bercer dans ce projet de A à Z et que nous, il est la tête pensante de son projet et nous, on est ses petites mains, on est toute la partie exécutive et donc on a tout structuré en interne pour avoir le projet le plus fluide possible de A à Z. Voilà, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, et pour que ça se passe le mieux possible pour lui.
C'est un placement qui est couru, l'investissement locatif, en ce moment ?
Alors, c'est le placement préféré des Français, déjà, dans un premier temps. Et puis, évidemment, c'est une sécurité aujourd'hui. On n'a pas forcément de boule de cristal pour savoir à quelle sauce on va être mangé dans quelques années, en termes de retraite, par exemple. On en parle beaucoup sur tous les plateaux. Donc, l'immobilier, c'est une façon de se dire, de manière personnelle, j'anticipe un peu l'avenir, je vais investir dans l'immobilier et ce qui va me permettre dans quelques années d'avoir des revenus complémentaires pour ma retraite, de léguer ce bien à mes enfants si je le désire, de revendre et faire une plus-value si je le souhaite aussi. C'est finalement le plus sécurisé des investissements à risque, parce que l'immobilier reste un investissement à risque, mais le plus sécurisé de tous à mon sens, et avec des belles rentabilités, parce qu'il y a encore très belles opportunités, très belles rentabilités à obtenir. Voilà.
Dans quel coin on trouve les meilleures affaires, Mathieu ? Ce qui intéresse évidemment ceux qui nous écoutent ce matin. On a envie d'investir, on sait que les taux sont encore bas. Ils sont peut-être en train de remonter d'ailleurs. Mais voilà, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients, là, ceux qui passent la porte ?
Alors en effet, les taux sont historiquement bas, l'étaient en tous les cas en 2021. Il y a plusieurs façons de voir l'immobilier. Déjà, l'idée c'est de corréler deux éléments extrêmement importants. Le premier, c'est la sécurité du bien et le deuxième, c'est la rentabilité. Vous pouvez avoir, et on trouve partout sur Internet, des gens qui peuvent vous vendre des rentabilités complètement folles. Mmh. Mais vous et moi, on serait millionnaires si on avait écouté tout cela.
Donc, ou souvent ruinés, hein, attention. On prévient parce qu'il y a pas mal d'arnaques. Dépasse 10%, 10-12%, c'est souvent des parkings qui n'existaient pas ou des choses un petit peu compliquées.
Vous avez tout dit. Dès lors qu'en effet, ça passe des rentabilités qui sont très importantes, la sécurité n'est plus là. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la sécurité et la rentabilité. activité. Donc, évidemment, elle est toujours dans des zones très tendues, c'est-à-dire où j'ai beaucoup de demandes locatives et peu d'offres. Ce qui fait que bah, quand vous mettez un bien sur le marché, s'il met 24, 48, 72 heures à se louer, c'est parfait. Il faut un projet qui soit pérenne dans le temps. Sur, faut pas forcément penser qu'à l'instant T, la rentabilité sur le papier. C'est aussi de se dire, bah, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, combien vaudra mon bien, combien je pourrais le louer. Et c'est ce qui fait la sécurité du bien. Donc nous, on travaille, bon, bah, on va en reparler, je pense, mais beaucoup sur le Grand Paris, la première, la seconde couronne parisienne, Paris Intramuros, qui reste des valeurs sûres.
Et alors, vous verrez... Paris Intramuros, lingot d'or de la pierre, tout le monde, malheureusement, n'y a pas accès, à part voilà, des petites surfaces. On rappelle, hein, l'emprunt moyen, peut-être c'est un peu plus élevé à Paris, mais en tout cas en France, on est autour de 250-270 000 euros. À Paris, pour cette somme-là, aujourd'hui, on a quoi ? Un studio, une studette ?
Alors, ce qu'il faut regarder, encore une fois, c'est le rapport de la surface achetée par rapport à la rentabilité. Ouais. Et ce n'est pas plus j'achète grand, plus je loue cher. On pourrait penser, se dire, j'achète très grand, je loue très cher. Non, c'est le nombre de pièces à vivre dans une surface donnée qui donne la valeur locative à un bien. Je vous prends un exemple très simple. Oui. J'ai acheté un studio à Paris qui fait 25 mètres carrés. Ce studio, il va valoir 650, 700 euros, par exemple, de location. Ben, si vous passez ce studio en deux pièces, vous allez valoriser votre prix de location aux alentours de 900 ou 1000 euros.
On fait deux grandes pièces de 10 mètres carrés, quoi.
Alors voilà, deux grandes pièces de 10 mètres carrés. Vous mettez une cloison, une chambre et une pièce à vivre. Et ce qui vous permet de valoriser.
Ouais, on continue sur ce sujet. Ça veut dire que quand vous avez... on sait, c'est vrai, hein, vous avez tout à fait raison. On parle studio à deux pièces, ça se revalorise. Mais vous êtes conseil également, vous conseillez ça à vos clients, vous les accompagnez dans cette mise en œuvre?
C'est une évidence. Je ne peux pas, et de manière, et c'est aussi très personnel, la société Imavenir, c'est toute la partie exécution, évidemment, ce que je le disais tout à l'heure, c'est les petites mains, mais c'est aussi évidemment un rôle de conseil. L'objectif, moi, pour développer ma structure, c'est que le client qui a fait un investissement locatif avec moi aujourd'hui en fasse un demain, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, il faut que je l'accompagne dans du conseil, que je lui fasse profiter des meilleures opportunités du marché à l'instant T. C'est le plus important. Et donc, il faut que je l'accompagne et le conseille, évidemment.
Alors, vous avez dit un truc qui m'interpelle, je l'accompagne dans un deuxième, un troisième, un quatrième projet. Oui. Expliquez-nous, parce qu'on sait que quand on va voir son banquier, en général, on a une capacité d'emprunt, un tiers de ses revenus nets, grosso modo, un 33%, en plus c'est assez strict en même temps. Comment on fait pour avoir deux biens, trois biens, quatre biens? C'est des gens qui s'enrichissent, qui ont des augmentations comme ça soudaines? Comment ils font?
Alors, déjà, la première chose, c'est de... En effet, il y a le calcul du taux d'endettement. Ça, c'est 33%. C'est monté à 35% aujourd'hui. Les banques sont de plus en plus fermées, même aujourd'hui, à prêter à ceux qui passent 35%. Maintenant, on se rend compte que des primo-accédants, même des personnes qui sont en CDI aujourd'hui, qui n'ont pas forcément des revenus mirobolants, qui ont un petit peu d'épargne, font ce qu'on a fait. Donc, font marcher l'effet de levier bancaire pour emprunter une somme. Alors, en effet, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est évidemment des personnes qui ont une capacité à investir avec un petit peu d'épargne pour, dans tous les projets, mettre de l'épargne. C'est sûr que si la personne se dit, je gagne 2000 euros par mois, je veux investir dans l'immobilier, un truc à 10%, une rentabilité de 10%, je ne mets pas d'apport et je veux emprunter 200 ou 300 000 euros à la banque, le second, le troisième, ça va peut-être passer une fois, le second, le troisième, le quatrième, ça va être compliqué. Mmh. D'où la notion d'apport qui est quand même importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément mettre tous les deux dans le même panier et ne faire que l'effet de levier bancaire avec un emprunt.
Voilà. Donc si on a finalement la capacité, on peut garder un peu pour une deuxième opération. Et on rappelle aussi que le banquier va consolider. Si vous avez des revenus dans un bien bien placé, enfin, n'importe quel à Paris d'ailleurs, dans Paris, ça va se louer. Première couronne aussi, très bien, je crois.
Très bien.
Et du coup, ça renforce aussi votre capacité à emprunt, on le rappelle.
Tout à fait, exactement.
Parce que vous avez des revenus complémentaires.
Alors, le monde de l'investissement locatif dont on parle, il est vaste dans l'immobilier. Les solutions sont multiples pour acquérir un bien. Comment trouver le bien qui correspond à mes critères personnels? Et est-ce que vous aidez les investisseurs à définir leurs critères? Parce qu'on sait, en général, on a une idée, mais on n'a peut-être pas tous les contours du projet, quoi.
Alors, en effet, déjà, le rôle de conseil au départ. Donc, mon client, il a évidemment un accompagnement sur mesure. C'est-à-dire qu'on va lui proposer une opportunité qui va répondre scrupuleusement à l'intégralité de ses critères, tant en termes de budget, de rentabilité, de zone géographique, et j'en passe. Donc, une fois qu'il a signé un mandat de recherche avec nous, il a un entretien avec son chasseur. Il a un chasseur qui est attitré à son projet et qui va dénicher la meilleure opportunité possible pour lui sur le marché. Je vais vous expliquer comment. Il y a plusieurs axes. Évidemment, déjà, c'est-à-dire que le chasseur et le client définissent un projet commun, donc des critères communs. C'est-à-dire que le chasseur, il sait exactement ce que veut son client. Donc, il va lui apporter une, deux, parfois trois opérations, mais 80% de nos clients se positionnent sur la première opération qu'on leur présente, puisqu'encore une fois, elle répond à leurs critères. Ça, c'est la première chose. Donc, on va être très actif. C'est un marché qui est extrêmement tendu, on l'a dit tout à l'heure. Quand une opportunité liquide se présente sur le marché, on n'est pas les premiers à appeler. Donc, il faut être très réactif. C'est-à-dire qu'il faut jouer parfois du coude à coude pour pouvoir visiter un bien, le premier, se positionner pour en faire bénéficier le client. Et c'est le problème du particulier, d'ailleurs, qui souhaite lui-même se lancer seul. C'est-à-dire qu'il travaille, il est comme vous et moi, il est entre deux réunions, il a mis une annonce se loger le bon coin, l'annonce sort, tac, il appelle, il dit « Tiens, je voudrais visiter. Ah, »« bah, très bien, monsieur, visite à 16h. » Sauf que l'agent immobilier a commencé à 14h ses visites, il y a 10 personnes qui sont passées devant. Alors, bah, la personne se présente à 16h et puis elle dit « bah tiens, le bien me plaît, j'investis, je fais une offre. » Sauf que bah, la plupart du temps, il y a déjà 3 offres au prix ou 5 offres au prix. Et on a rarement la possibilité d'avoir les bonnes opportunités du marché. Donc le chasseur va travailler à 100% pour ce client-là et lui permettre d'avoir la meilleure opportunité possible. Voilà.
Tout à l'heure, Fabrice parlait à juste titre de la localisation. Et je le disais, Imavenir s'est spécialisé sur le Grand Paris. Alors, on le rappelle pour ceux qui nous écoutent, hein, le Grand Paris se concrétise par la construction d'un important réseau de transport en commun. Il y a le Grand Paris Express. Et est-ce qu'il faut regarder ça quand on cherche la localisation de son bien? Comment vous nous guidez là-dessus?
Alors, en effet, le Grand Paris, à mon sens, je trouve que c'est l'eldorado des investisseurs puisqu'il permet à la fois d'avoir une rentabilité sécurisée, une bonne rentabilité, mais surtout une perspective de plus-value à très court terme. Aujourd'hui, c'est le cinquième plus grand chantier du monde, le premier chantier européen.
Du monde, oui.
C'est le premier, l'un des cinq plus grands chantiers du monde. Le premier chantier européen, c'est 200 km de transport de ligne ferroviaire, c'est 32 milliards de dollars investis, donc c'est l'Eldorado, à mon sens, des investisseurs.
Puisque... C'est combien de villes raccordées, d'ailleurs, je sais plus.
Alors, il y a 68 villes de mémoire qui sont directement touchées par ces gares. C'est 68 nouvelles gares. Mais indirectement, c'est 130 communes qui sont touchées par le projet du Grand Paris. C'est sous Nicolas Sarkozy. C'est lui qui a décidé de développer ce Grand Paris pour avoir... trois couronnes, et avoir un lien entre Paris et la première et la deuxième couronne parisienne. Donc, fatalement, c'est une zone donc, qui est extrêmement sécurisée. On a des bonnes rentabilités et une perspective de plus-value, je le disais. Donc, d'ici 5 ans, certains parlent de 30% de plus-value au mètre carré dans certaines zones géographiques de la capitale.
Donc, alors, où donc qu'est-ce que vous prospectez? Qu'est-ce que vous conseillez?
Des noms.
Plus qu'il n'en faut. Vous avez évidemment toutes les zones qui sont en devenir, notamment les zones du 93.
La Seine-Saint-Denis
La Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, Villejuif. Vous avez Neuilly-Plaisance, des villes qui sont à proximité de Paris et qui prennent une valeur folle. C'est-à-dire qu'on a vu le visage de ces villes-là complètement se transformer avec des créations de nouvelles universités, d'hôpitaux, de zones de forte activité économique, et qui fait qu'aujourd'hui, ces villes-là se développent et permettent de bons investissements pour l'avenir. Voilà.
Donc le Nord ?
Alors donc le 93, le 92, on est déjà sur des zones globalement extrêmement patrimoniales, mais c'est du sécurisé. Mais c'est vrai que toute la partie Nord, Asnières-sur-Seine, Boulogne, Colombes, etc., sont des villes qui ont déjà pris beaucoup de valeur. Je ne sais pas, et je n'ai pas de boule de cristal pour vous le dire, je ne sais pas si ces villes-là prendront encore de la valeur. Je pense que oui, mais je pense moins de manière proportionnelle par rapport à des zones peut-être de la seconde couronne parisienne, type notamment le sud du 94, par exemple, ou du 91.
Voilà. On va revenir sur ce marché, mais petit focus sur cette société Imavenir. Si ça se développe si vite, c'est que vous n'êtes pas tout seul, Mathieu Dolive. Vous avez un associé, Philippe Dos Santos, et on est allé lui poser quelques questions pour essayer de cerner votre personnalité. On l'écoute. Philippe Dos Santos, bonjour. Vous êtes associé à Mathieu Dolive. Pourquoi l'avoir choisi comme associé, justement ?
Écoutez, on était dans une dynamique de développer une structure d'investissement locatif, et Mathieu, de par son énergie, avec une vision sur l'investissement locatif qui était assez intéressante, nous a permis de pouvoir justement se développer et faire aujourd'hui ce que l'Imavenir est en train de se préparer à faire sur différents modules d'activité.
Alors j'imagine que vous êtes complémentaire. Qu'est-ce qu'il apporte ? Quel est son style par rapport à vous, justement, dans cette société ?
Alors lui, il est plutôt sur la partie, je dirais, en front office avec les investisseurs, particulièrement. Et moi, de mon côté, en effet, avec mon collaborateur Alexandre, nous sommes plus sur la partie back office, justement sur la partie appartement, les travaux, la gestion des travaux, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ce sont deux métiers complètement différents. Et la gestion commerciale que fait Mathieu était omniprésente justement pour développer cette boîte.
Quel type de manager est-il hein? Il faut, quand on est manager, ça demande beaucoup de qualité. Il y a beaucoup de défis. Comment vous le voyez, vous?
Alors, très à l'écoute de ses collaborateurs, des réunions, je dirais, assez récurrentes, bon, hebdomadaires, c'est une certitude. Mais je dirais qu'au-delà de ça, il a vraiment cette force de prendre le temps avec les collaborateurs, de les pousser justement à ce qu'ils puissent vraiment appréhender le métier de chasseur, entre autres, enfin, sur cette boîte immobilière. Et c'est vrai qu'il est vraiment à l'écoute de ses collaborateurs. Ça, c'est vrai que c'est une qualité qui est essentielle en tant que manager d'équipe. Donc, il répond complètement à cette demande.
Quand on est manager, il y a des décisions à prendre, il faut faire des paris. Et ça fait partie des choses qu'ils maîtrisent.
Bah oui, non, mais c'est sûr. Là, encore une fois, on vient de recruter des nouveaux collaborateurs en tant que chasseurs. On vient de recruter de nouvelles collaboratrices en tant qu'archi en intérieur, en tant que consultant. C'est lui qui prend vraiment cette partie RH à bras le corps parce que c'est quelque chose qu'il apprécie et qu'il a envie de développer. Voilà, c'est son cheval de bataille.
Merci beaucoup Philippe Dos Santos pour cet éclairage de votre associé Mathieu Delivre. Merci à vous, au revoir. On apprend que vous êtes à l'écoute, mais aujourd'hui c'est nous qui vous écoutons, Mathieu Deliveux. Et Philippe Dos Santos le dit très bien, vous êtes en plein recrutement, ça continue, vous êtes un meneur de chasse, alors qu'est-ce que vous recrutez? Racontez-nous.
Alors en effet, dans tout développement d'activité, évidemment, ça passe par les hommes, les humains. Alors on parlait beaucoup de digital, j'ai vu beaucoup de personnes sur votre plateau de parler d'outils digitaux. Nous, on est très accrochés à la côté manufacture, artisanat, prendre le client par la main. Donc prendre le client, bah, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut structurer toutes ces équipes-là. Donc c'est vrai qu'on recrute au quotidien, que ce soit sur la partie pôle architecte, que ce soit les chasseurs. C'est évidemment le gasoil. Si vous avez des chasseurs qui vont dénicher des bonnes opportunités pour les clients. Évidemment, vous pouvez faire des travaux, vous pouvez faire de l'ameublement, vous pouvez trouver des locataires, etc. Et c'est ce qui fait que votre société, le business model de votre société tient la route. Donc moi, j'ai très à cœur, en effet, d'essayer d'avoir les bonnes personnes, les meilleures personnes, les personnes motivées. J'ai aussi une casquette de professeur dans mon ancienne université où j'étais. Et j'ai à cœur de transmettre peut-être le peu de choses, parce que je suis quand même très jeune aujourd'hui, mais ma petite expérience, j'ai 33 ans. Mais la petite expérience professionnelle que j'ai, qui est une dizaine d'années aujourd'hui, j'ai à cœur d'essayer de transmettre, et de, si vous voulez, je pense que quand on forme des gens, on les forme aussi comme si c'était pour soi. Donc vous avez des personnes qui vous le rendent beaucoup, qui vous le rendent très bien, et si vous les laissez à l'abandon, vous n'êtes pas forcément en raccord sur tous les sujets. Donc j'ai vraiment à cœur de les avoir avec moi au quotidien et de les épauler. Voilà,
mais je suis pas sûre que votre équipe ait quelqu'un qui puisse avoir le mal de mer, parce que je me suis rendue chez vous et votre société Imania, elle est située sur une péniche. Pourquoi ce choix?
Alors, c'est Philippe, l'initiateur et l'instigateur de ce choix-là. Faut pas oublier Alexandre Bougon, hein, qui est mon associé sur la structure Imavenir. Philippe également est beaucoup plus sur la partie travaux. Et donc, qui dit travaux, dit réalisation de travaux sur une péniche. Il a donc eu l'opportunité, il y a quelques années, de s'installer, lui, pour ses bureaux à l'époque, avec sa société, sur une péniche. On l'a rejoint avec Alexandre. Aujourd'hui, on a changé de péniche, on a déménagé. On est en construction d'une nouvelle péniche qui va arriver d'ici un an et demi, une toute nouvelle
basée
péniche
où exactement
qui sera sur le port Van Gogh à Asnières-sur-Seine, une toute nouvelle péniche design avec beaucoup de place pour les collaborateurs et pour toujours recruter. Et l'objectif étant de grandir tous ensemble. Voilà.
Ça change quoi quand même de travailler sur une péniche? Il y a un calme, c'est spacieux, c'est aéré. Racontez-nous.
Alors déjà, moi à la base, je ne suis pas un Parisien pure souche. Je suis un rural et j'aime la biodiversité, j'aime le côté bucolique. Donc quand j'ai des petits canards qui se baladent devant moi, et ben ça me refait ma journée. Non, mais blague à part, je trouve ça c'est calme, c'est vivant. Vous n'avez pas le bruit des automobiles toute la journée, et c'est un cadre extrêmement agréable puisque vous vous laissez bercer par la Seine. Voilà.
Vous venez d'où, Mathieu?
Alors moi, je viens du Berry. Je suis berrichon, solognot, plutôt berrichon, mais voilà, au centre de la France.
D'accord. Vous y retournez ?
J'y retourne.
Vous allez dans vos chasses pendant le week-end ?
J'y retourne extrêmement régulièrement. J'y retourne tous les week-ends parce que bah, c'est une source d'énergie. Je me revitalise grâce à mes déplacements là-bas. Et c'est vrai que je ne passe pas un seul week-end à Paris. J'ai besoin d'air pur, d'arbres, de forêts, de champs parce que j'ai travaillé dans le milieu agricole pendant des années. Donc j'ai besoin de mettre des bottes et d'aller dans les champs.
Oui, je ne sais pas si vous savez, Fabrice, mais Mathieu d'Olive ne devrait pas être là. Il est diplômé de l'IHE de Réa, je ne sais pas si on dit comme ça, puis de l'IAE de Paris. C'est-à-dire que vous étiez vraiment destiné à un métier sur rural. Vous nous racontez ce petit parcours
Parcours très simple. Donc, comme je vous le disais, je viens de la région centre. J'ai effectué mes études là-bas. Et puis, je n'étais pas forcément très bon à l'école, d'ailleurs. Il fallait que quelque chose, une école, dans tous les cas, qui m'attire et qui fasse en sorte que je sois meilleur que je l'étais dans maths et en français. Donc, j'ai trouvé une école d'économie agricole parce que je suis issu du milieu rural. Donc, j'ai fait ces études pendant 5 ans. Et j'ai terminé commercial. J'ai commencé ma carrière en tant que commercial dans le domaine agricole, en Touraine. Une société, d'ailleurs, à laquelle je fais beaucoup référence au quotidien dans mon activité parce que cette société s'appelle Bio3G. Son fondateur est Marc Guillermeau. Il a une expérience absolument incroyable. Pour la petite histoire, il a créé cette société en 97. Il a hypothéqué sa voiture. Aujourd'hui, il est à la tête de 400 personnes. C'est une vraie réussite et c'était quelqu'un de très visionnaire. Et je m'inspire beaucoup de cette personne dans mon quotidien parce qu'il m'a permis, moi, de me faire confiance sur des problématiques commerciales. Donc, j'ai développé mon activité commerciale au sein de la région Touraine. Je suis monté en grade dans cette société-là.
Puis à un moment, qui faisait quoi, précisément ?
On vendait des produits naturels pour les agriculteurs afin de revitaliser les sols, sauf que quand vous parliez de bio, même en 2010, c'était pas forcément très bien perçu. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus, c'est dans l'air du temps. À l'époque, quand vous toquiez à la porte en disant « je m'appelle Bio3G », vous n'étiez pas forcément très bien reçu. Donc, il fallait, par force de conviction, arriver à vendre vos produits, vos services, auxquels je croyais, évidemment, je crois toujours, sont d'excellents produits. Je suis très content d'avoir fait partie de cette belle aventure. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. Je pense que l'une des personnes qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat, c'est Marc Guillermeau, qui pour moi a été un modèle de réussite, clairement. Et donc, après ces quelques années, 7 ans chez Bio3G, j'ai donc pris mon envol. Je suis parti en Angleterre apprendre l'anglais parce que je ne parlais pas un mot. J'ai fait l'EM Lyon derrière en executive MBA et j'ai rejoint l'activité donc de Philippe et Alexandre sur l'immobilier locatif, qui n'était pas du tout, je n'étais pas du tout prédestiné à faire de l'immobilier. Mais j'ai toujours aimé l'immobilier. J'en avais à titre personnel. J'avais commencé à faire une petite opération en province à titre personnel il y a quelques années. Et donc, j'ai eu la chance
de rejoindre. Le virus vous a pris ?
Le virus m'a pris, exactement. Ouais.
Oui, parce qu'effectivement, après cette première expérience dans les produits agricoles bio avant l'heure, on va dire, et puis cet exécutif MBA qui prend du temps, qui est un investissement, ça ouvre aussi le champ des possibles. Vous auriez pu faire d'autres choses. C'est quoi ? C'est une rencontre qui vous a plongé dans ce milieu ?
Forcément, il y a toujours une histoire de rencontre et d'opportunité qu'on ne saisit ou qu'on ne saisit pas. Et il y a le goût du risque. Le risque, pour moi, il était assez minime puisque j'avais mon parachute avec cet exécutif MBA que je peux ressortir comme cartouche tout au long de ma carrière si un jour je décide de changer de braquet, ce qui est pour l'heure pas du tout au rendez-vous. Mais j'avais ce filet de sécurité et je me suis dit pourquoi pas se lancer. C'est le moment, je suis jeune, j'ai 30 ans, autant me lancer dans le.
Vous auriez pu travailler directeur commercial d'une grande entreprise et puis vous avez choisi l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui vous trottait dans la tête ?
Ça m'a toujours trotté dans la tête. C'est évidemment, quand on est jeune, on a toujours des personnes qui nous donnent envie ou des modèles de réussite. On se dit, si j'avais eu cette idée-là avant, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Pourquoi je n'ai pas eu cette idée ? Ça a réussi, ça a marché. Et puis un jour, par la force des choses, vous rencontrez des personnes et puis vous décidez de vous lancer avec des risques quand même mesurés, mais vous décidez de vous lancer en disant, ma foi, qu'est-ce que j'ai à perdre que d'essayer, qui ne tente rien à rien. Donc je me suis lancé et aujourd'hui, je suis comblé de mon choix extrêmement satisfait de l'évolution que prend Imavenir aujourd'hui. Et je ne regrette en rien ce choix d'être passé d'un rural à un citadin, mais citadin que la semaine, le week-end.
D'accord, on a bien compris. Est-ce qu'il y a une... c'était une fibre où c'est les rencontres justement avec votre ancien patron qui vous ont donné cette fibre entrepreneuriale où on la cultive aussi après en faisant justement des execs MBA
Alors, on la cultive, l'Executive MBA, et je pense que c'est un diplôme qui, enfin, en tous les cas, c'est une formation qui permet de rencontrer des personnes de tous bords, de tous horizons, de toutes origines. Et j'étais le plus jeune, j'avais 30 ans, j'étais avec des personnes de 45, 50 ans.
C'est vrai que normalement, on fait plutôt ça en, voilà, une fois que la carrière est avancée.
Exactement. Alors, moi, j'ai pris les devants, voilà, je me suis vendu hein, quelque part en disant que j'avais beaucoup d'énergie, que je voulais faire, j'avais plein de projets dans la vie, que j'étais prêt, etc., j'étais mûr. Ils m'ont fait confiance au début. Je ne comprenais pas grand-chose. Hein. Tout se passait en anglais. J'avais du mal à suivre le système. Et puis, bah voilà, à force de travail, on y arrive. Et donc, j'ai surtout rencontré donc, dans cet Exec MBA des personnes qui vous donnent envie, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des directeurs financiers, de grosses structures. Vous êtes propulsé dans un monde que vous ne connaissez pas. Vous partez en Chine visiter Alibaba, des start-up. Et ça vous donne un peu cette idée de se dire bah, comment va aller le monde, comment je vais pouvoir être visionnaire demain dans mon activité, quelles idées je peux prendre de tout ça. Donc ça, c'est le côté formation. Mais évidemment, il y a le terrain. Et le terrain, en fait, c'est soi-même. Le management, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, on a des idées de management participatif, directif, etc. Je pense qu'il y a aussi une idée de management intuitif. Et moi, j'ai trop fait d'erreurs à vouloir copier les autres dans leur management. Mais on n'est pas les autres, on est soi-même. On a chacun notre façon de parler, de s'exprimer, de penser. Et donc, j'ai essayé de développer ce management que j'appelle management intuitif aujourd'hui, qui fait que, comme on le sent, parfois, il y a des choses qu'on sent, des choses qu'on sent moins. Et je pense que, enfin, pour moi, en tous les cas, c'est très important aujourd'hui
Eh bien, moi, je sens que c'est le moment de la parenthèse musicale. On le sent, vous avez des ambitions pour vous et pour votre société. Vous regardez les cimes. Donc, on va s'intéresser aux cimes, aux montagnes. Et je vous propose d'écouter une musique de Jean Ferrat intitulée « La montagne ».
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
Et oui, c'est presque de la poésie, hein, Jean Ferrat, et on sent cette ambiance bucolique que vous faites souffler sur le studio du Mac de l'Immo, Mathieu. Vous appréciez, Fabrice ?
Oui, j'aime beaucoup. Moi, je suis montagnard aussi, vous le savez.
Ah, Pyrénées, je savais pas. Bah oui, ouais. Ça y est, ça sent le week-end. Tout le monde va partir à la montagne.
Notre invité est déjà parti, effectivement, de l'évêque avec nous ce matin pour parler de sa société, de son parcours. On en était resté effectivement à vos études que vous avez repris, on le disait, hein, cette fameuse exec MBA, et puis ce virage dans l'entrepreneuriat qui vous animait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait avancer ? Comment on se projette ? Parce que vous me disiez, vous êtes encore très jeune, 33 ans, la société est sur de bons rails. Quelle est l'ambition ?
Alors, en effet, l'immobilier étant très large, évidemment, il y a de multiples facettes sur lesquelles on peut jouer. C'est-à-dire que, il y a toute la partie accompagnement sur mesure clé en main. Et il y a une phase qui est extrêmement importante et pour laquelle, et avec Philippe et Alexandre, on a vraiment à cœur que les choses soient... extrêmement bien faite, c'est toute la partie reconfiguration d'espace et la partie de travaux. Aujourd'hui, on vous en parle régulièrement sur ce plateau, il y a beaucoup de passoires énergétiques dans le marché parisien, c'est-à-dire que nous, on ne fait investir que dans de l'ancien à rénover. L'idée, c'est de redonner un goût nouveau à ces appartements, ces maisons, ces immeubles qui sont dans un état parfois délabré. Et c'est l'idée, nous, de faire acheter des appartements complètement délabrés avec quatre murs et tout refaire à l'intérieur. On axe de plus en plus notre communication et pour nos clients, une sérénité aussi dans la rénovation énergétique des appartements. Ça, c'est un point essentiel parce que demain, vous allez avoir des interdictions réglementaires de louer ces appartements et les bailleurs, dans quelques années, ne pourront plus louer les appartements comme ils le souhaitent.
Alors, on est en plein dans l'actu, Fabienne. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui que ces passoires énergétiques, c'est pratiquement programmé. Demain, ça ne pourra plus se louer. Est-ce que vous voyez sur le marché, du coup, Mathieu, des opportunités, des gens qui se disent « Oula, moi, je n'ai pas envie de me lancer dans les travaux. Je préfère vendre mon appartement. » Et si on a le savoir-faire, on peut en faire quelque chose de très, très bien.
Tout à fait. Et on arrive même aujourd'hui même à un déclic, puisque la loi est tombée au 1er juillet 2021. Mmh. Aujourd'hui, un déclic de clients qui nous appellent en disant je vends mon appartement parce que ou des clients qui disent je vends mon appartement parce que je suis en classe G, c'est-à-dire la pire classe énergétique. Et ils sont même obligés de décoter ces appartements-là parce que il y a un marché et les investisseurs en face ne veulent pas acheter du G. Et donc, ils font des négociations de prix sur ces appartements qui sont en mauvaise classe énergétique, F ou G. Et c'est ce qui nous permet d'avoir les bonnes opportunités pour nos clients. Et c'est ce que je dis tous les jours à mes clients. Achetons du F, achetons du G, c'est génial. Vous allez acheter sur un prix marché moins important que le prix marché. Vous allez donc faire une bonne opération de départ. Et derrière, évidemment, Imavenir s'occupe avec la société de travaux donc, qui est FlatDB, qui est la structure, la continuité d'Imavenir, s'occupe de la rénovation énergétique des appartements. Et donc, on va remonter votre note de DPE, ce qui va vous permettre de louer votre appartement.
Alors, dans une bonne condition. Question subsidiaire, on remonte la note du DPE, mais est-ce qu'on ne remonte pas aussi le prix pour arriver finalement à un prix de marché qu'on aurait pu acheter directement à un bien bien classé ?
Alors oui, on peut acheter en effet un bien bien classé, mais on va l'acheter sur un prix en effet marché, voire supérieur. Mais toute la question, on en parlait tout à l'heure, c'est dans la reconfiguration d'espace. Vous allez
reconfigurer.
Voilà, vous allez sinon acheter des espaces trop grands et le prix de location ne sera pas corrélé au nombre de mètres carrés que vous achetez et pas assez valorisé. Voilà.
Est-ce que vous avez des exemples en tête de cette transformation presque magique que vous faites sur des appartements ? Et puis la réaction de ces clients qui viennent peut-être avec une idée de trois pièces et puis votre manière de reconfigurer. Parlez-nous des travaux un petit peu, on va mettre les mains dans le plâtre pour qu'on se rende compte de comment vous transformez le plomb en or. Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est ça.
C'est exactement ça, c'est de faire des bijoux, c'est de faire, comme je dis, des appartements, des tôles, d'en faire de tôles, de le transformer en bijoux et en petits cocons. Voilà. Il faut que mon client ait un effet waouh, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se dise Souvent, ils achètent quatre murs. Encore une fois, il faut être très imaginatif hein, pour se dire, bah, quatre murs, c'est très délabré. Il y a des trous dans le plafond, il y a des trous dans les murs, etc., et dans les vitres. Et derrière, d'en faire un joli cocon. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours et très régulièrement des clients qui font « Waouh, c'est beau, c'est sympa, ça donne envie » et qui sont très contents de par cette rénovation. Après, sur des exemples, vous me demandiez, Fabienne, il y en a pléthore, évidemment, parce que c'est notre quotidien. Tous les appartements sont reconfigurés, l'espace est réaménagé, mais la plupart du temps, on va transformer un studio en deux pièces. Là, la semaine dernière, on avait un T3 qu'on transforme en T5.
C'est où, par exemple, ça se passe où ? On est sur le Grand Paris, là ?
On est sur le Grand Paris. Là, c'est Noisy-le-Grand. Vous en avez à Créteil. Vous en avez... Quand on transforme un T3 en T5, c'est souvent pour faire de la colocation étudiante. Donc, évidemment, on va vers les zones universitaires, les zones géographiques, attention locative, Créteil, Noisy, Cergy. Vous avez les SEC, par exemple, à Cergy, 20 000 étudiants. Ça, ce sont des zones géographiques très tendues où on va sécuriser l'investissement. Donc, un T3 qu'on transforme en T5, pourquoi ? Parce que j'ai une cuisine qui est fermée. Cette cuisine, autant l'ouvrir, mettre une cuisine ouverte dans le salon, créer une chambre dans la cuisine, et on a un séjour, cuisine, salle à manger complètement équipée, des salles d'eau, des chambres bien équipées de 10, 11 mètres carrés, et ce qui permet donc de valoriser le prix de location. Tout ça homestagé, décoré, suréquipé.
Et clé en main, quoi.
C'est-à-dire... totalement clé en main. Et l'idée, c'est vraiment d'être très bon aussi sur la partie mobilier, décoration. Il faut des matériaux qui tiennent dans le temps, c'est de l'immobilier locatif. Quand c'est pour soi, on fait attention aux choses. Parfois, dans le locatif, vous avez des gens qui ne font pas forcément très attention. Donc, il faut du matériel qui tienne dans le temps, des belles finitions et du matériel, du mobilier qui tienne aussi.
À vous écouter, du coup, on a le sentiment que c'est clé en main, c'est ça, cette prestation. Une fois qu'on a donné, voilà, ces desiderata, sûrement son budget, vous vous occupez de tout, de trouver le bien, l'enveloppe, de le refaire à neuf, le reconfigurer et de le louer.
Intégralement. D'accord.
Le mode de rémunération, du coup, c'est quoi pour
vous ? On est sur un pourcentage sur le montant total de l'opération.
D'accord.
Et ces honoraires sont calculés dans le coût de la rentabilité. Dans la rentabilité, c'est-à-dire vous avez une rentabilité à 6,62%. D'accord. Dans cette rentabilité rentrent tous les coûts de l'opération de votre projet, y compris les honoraires Imavenir. Donc, par la reconfiguration, on fait un gap de rentabilité. Mmh. Donc on va valoriser la rentabilité et donc en effet c'est un processus de la recherche jusqu'à la gestion locative, encore une fois pour que le client se laisse complètement bercer dans le projet, qu'il soit à Paris, à Lyon, à Marseille ou étranger.
Ça a l'air facile quand on vous écoute, mais j'ai l'impression que pour relever le défi d'un beau projet, il faut que vous ayez tout un écosystème autour de vous, des gens qui vous détectent et vous alertent quand il y a une belle opportunité, des artisans qui savent bien travailler, hein, parce que la rénovation, c'est bien beau d'en parler, mais aujourd'hui, il y a une pénurie d'artisans. Flatte Bookor, par exemple, vous l'avez cité, c'est l'un de vos partenaires. Je vous propose d'écouter Thomas Alazet. Thomas Alazet, bonjour. Vous êtes responsable des partenariats chez Flat Looker. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, vous travaillez avec Mathieu Doliveux. Alors, comment se jouent ces coopérations précisément ?
Alors, dans le cadre du partenariat qu'on a avec Mathieu Doliveux, on est en charge d'accompagner ses clients dans leurs projets locatifs et de les aider à trouver un locataire, et ensuite de gérer leur bien, qui est la dernière étape de leur projet d'investissement.
Et comment il vous apparaît ? Des partenaires, vous en avez plein. Qu'est-ce qui se dégage de la personnalité de Mathieu Doliveux ?
Ça va être son organisation et son implication. C'est-à-dire que Mathieu va toujours nous contacter pour chacun de ses clients, afin de vérifier certaines informations, afin de s'assurer qu'on ait tous les éléments pour pouvoir accompagner ensuite son client et nous transmettre toutes les bonnes informations. Donc il a vraiment un côté proche de chacun de ses clients, ce qui nous permet, nous, d'être très clairs sur la mission qu'on doit engager derrière.
Vous me disiez que vous aimez bien travailler avec lui. Qu'est-ce qui ressort ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un partenaire comme un autre ?
J'ai envie de dire que c'est un partenaire que j'ai au téléphone 4 fois par semaine, ce qui est assez rare avec certains partenaires. Et même si ça marche très très bien dans notre partenariat, on prend quand même le temps d'échanger régulièrement sur les projets de tous ces clients-là, sur les questions d'actualité immobilière, juridique, pour se donner des informations, débattre ensemble, et donc ça dépasse un petit peu la relation de partenariat, et c'est une relation qui fait plaisir au quotidien.
Parce que il sait prendre le temps, il est chaleureux, voilà, qu'est-ce qui se dégage.
Exactement.
Quand on vous écoute, on comprend que c'est pas seulement une relation professionnelle, enfin c'est dans le cadre, mais finalement on dirait que vous y prenez du plaisir.
Exactement, il est très chaleureux et encore une fois très investi, et moi c'est quelque chose qui me parle énormément à titre personnel, parce qu'il va toujours vouloir avoir les bonnes informations et donner les bonnes informations pour que on puisse puisse donner le meilleur service possible. C'est une valeur qu'il a de son côté et qu'on a chez Flatcooker également. Donc on se retrouve déjà là-dessus. Mais ensuite, c'est aussi quelqu'un humainement de très sympathique et avec qui je prends beaucoup de plaisir à échanger sur tous les sujets immobiliers et professionnels du quotidien.
Merci Thomas Alazet pour cet éclairage sur notre invité.
Voilà, comment on fait pour avoir un réseau qui vous permet d'aller vite? On parle de chasse, on parle de concurrence, on parle de clients exigeants.
Je pense qu'il faut essayer de s'entourer des meilleurs. Je ne peux concevoir l'approximation avec mes clients. Donc je suis extrêmement exigeant. Mon client et moi, je suis très exigeant quand je suis client quelque part et quand je paye une prestation. Donc je veux être extrêmement exigeant dans tout le processus. C'est-à-dire, je suis exigeant sur la chasse, sur mes chasseurs, sur le recrutement que je fais, les plans d'architecte. Le moindre détail est important et une succession d'étapes fait la réussite d'un projet. Donc, il y a trop, je pense, aujourd'hui, d'entreprises ou de personnes qui ne sont pas, comme moi, je l'entends, enfin, très exigeantes.
Professionnelles.
Et donc, il faut être professionnel de A à Z. Et donc, Thomas et Nicolas, donc le PDG de Flatlooker, sont des personnes extrêmement professionnelles qui finissent le processus de... C'est l'apothéose, c'est-à-dire que mon client est content sur toute la partie exécutive, prise en main de A à Z, jusqu'à la mise en place du locataire. Le bien est prêt à louer, design home, stagé, refait à neuf. Il ne manque plus qu'à mettre le locataire en place et faire la gestion locative. Et c'est un axe extrêmement important parce que c'est une mission qui est très chronophage. C'est une mission de suivi quotidien. Moi, à titre personnel, sur d'autres biens immobiliers, je ne passais pas forcément par Flatlooker. J'ai eu moi-même, à titre personnel, des problèmes. C'est très compliqué, la gestion locative. Vous avez des entreprises qui prennent ça peut-être un peu moins à bras-le-corps que ne le font Flatlooker. Je suis extrêmement satisfait de ce partenariat. Ça fonctionne très bien. Les clients sont très satisfaits. Et la satisfaction globale, elle est aussi sur la fin. Si vous faites 90% du boulot super bien et qu'à la fin, vous avez un prestataire qui vous fait, qui vous casse la baraque, concrètement, pour la suite du projet, le client, il est un peu refroidi, il reste un peu sur ses fins, quoi. Donc, c'est très important. Je souhaiterais juste mentionner, donc, il y a vraiment Flatlooker, la fin. Et le début, c'est d'avoir les bonnes opportunités. Et les opportunités, je remercie toutes les partenaires, les agents immobiliers qui travaillent au quotidien avec nous et qui nous font part en priorité de leurs pépites, ce que j'appelle, c'est-à-dire les produits du marché qui arrivent et qui nous font confiance.
Vous travaillez avec tous les réseaux
Tous les réseaux. Je travaille à l'inverse d'une agence immobilière. Donc, je ne suis absolument pas concurrent d'une agence immobilière. Bien au contraire, je suis un vrai partenaire des agences immobilières. Eux, leur idée, c'est de travailler avec moi pour avoir une facilité de commercialiser leurs biens. En 5 minutes, leur bien est commercialisé. Pourquoi ? Parce qu'ils passent un coup de fil avec le chasseur en disant « Tiens, j'ai un 17 mètres carrés à tel prix, est-ce que ça t'intéresse ?» Le chasseur regarde dans son portefeuille, il dit « Ah oui, tiens, très bien, j'ai un client, ça pourrait l'intéresser. » Ils font une visite ensemble, super, c'est parfait, je fais une offre, on envoie au client, le client dans l'heure répond en disant « Je me positionne » et c'est vendu. Chose que si Imavenir n'intervient pas, l'agent immobilier, il met l'annonce en ligne, il a 80 coups de téléphone, il doit sélectionner, faire 2 jours de visite et à la fin choisir un futur propriétaire qui peut-être n'aura pas le financement. Donc, obligé de recommencer à Z. L'avantage d'Imavenir, c'est qu'on a validé, verrouillé les financements de tous nos clients en amont. On ne travaille donc pas dans le vent et pas pour rien, ce qui fait que l'agent immobilier est certain d'avoir un projet verrouillé jusqu'au bout.
Voilà. Ce qui m'a étonné, tout à l'heure, vous avez parlé de pays étrangers, Dubaï, vous avez cité. Vous travaillez jusque-là, une société de taille moyenne comme vous, comment vous faites ?
Oui, alors on est aidé évidemment par les réseaux sociaux, donc on publie, on partage, on essaie de se faire connaître dans le monde entier, mais surtout, le monde entier, c'est surtout les expatriés. Vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes expatriées qui ont un rêve peut-être plus tard, c'est de revenir en France, ou en tous les cas de se constituer un patrimoine en France, parce qu'elles savent que leur activité étrangère est temporaire, et donc elles ont envie de se constituer un patrimoine en France. Donc j'opère à distance pour elles, et donc je m'occupe de... Aujourd'hui, 25% de l'activité Imavenir, ce sont les expatriés. Donc c'est une très grosse branche d'activité. On développe ce créneau-là. Et encore une fois, que les gens soient... Ça m'arrive parfois de mettre un réveil à 4h du matin pour faire un call avec un client à l'autre bout du monde.
Clairement. Finalement, c'est la grasse matinée pour venir aujourd'hui à Magdolimo. On avait des
scrupules. D'être arrivé à 7h.
Une question, tiens, justement, sur comment on se démarque aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de concurrents qui en font des levées de fonds aussi importantes, qui communiquent sur cette façon presque ludique d'investir avec beaucoup de simulations, etc. Vous parlez des réseaux sociaux, c'est un axe fort aujourd'hui, cette digitalisation qui touche, on le sait également, l'immobilier.
Alors, c'est un axe extrêmement important. C'est un axe, j'ai envie de dire, obligatoire. Si vous n'êtes pas sur les réseaux, si vous ne travaillez pas votre référencement, si, forcément, la concurrence est là. On est sur un marché oligopolistique. Hein. Il n'y a pas 500 acteurs sur le marché français. Mais il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'immobilier clé en main parce que ça plaît, parce que c'est tendance, etc. Donc, en effet, il faut être présent. En revanche, je suis... Et je vous le disais en intro, pour le contact client, le contact humain. J'aime les gens, j'aime les hommes. J'ai besoin de ce contact-là. Les femmes aussi. J'ai besoin
Mais
de
oui,
ce...
Mais oui, Fabien, vous en faites pas.
C'est un gimmick. À chaque fois que je suis en homme, je rajoute femme.
Les hommes, les femmes, évidemment. J'ai besoin de ce contact-là. Et donc, c'est le côté artisanat et manufacture dont je vous parlais tout à l'heure. Le client n'est pas un pion, n'est pas un numéro. Je veux l'accompagner, le prendre par la main. C'est Alexandre et moi-même qui faisons toutes les entrées clients. On a fait le choix de consacrer beaucoup de temps à ces personnes. Je veux savoir avec qui elles vont travailler, qu'elles sachent avec qui elles vont travailler, et moi, de connaître mes clients par leur nom, leur prénom, savoir s'ils ont des enfants, pas d'enfants, ce qu'ils se font dans la vie, leurs objectifs, leurs envies. Et c'est ce qui fait que derrière, on crée un vrai lien, une vraie connexion entre le client et moi-même, et nous-mêmes et nos équipes. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la base même de mon business model.
Qu'est-ce que vous diriez d'une petite pause musicale, Fabrice ?
Eh bien, allons-y.
Alors, ce sera de l'italien, en tout cas une belle musique de Rondo Veneziano.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
On vient d'écouter Rondo Veneziano, le choix de notre invité, Mathieu, justement. Pourquoi ce titre ?
Alors, c'est une musique qui...
Vous disiez, c'est mon enfance.
Oui, c'est mon enfance parce que c'est très entraînant et c'est une musique que mettaient mes parents. J'avais trouvé une vieille cassette chez mes parents et je mettais ça en boucle. Et du coup, on écoutait Rondo Veneziano et c'est un clin d'œil aussi à mes parents qui m'ont fait confiance dans cette aventure aussi parce que pour eux, ils étaient un peu inquiets. Ils disaient, dis donc, mon fils se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quand même pas rien.
Non, mais surtout après une carrière quand même toute tracée, quoi. Voilà,
j'étais dans ma zone de confort. Exactement. Total. Donc, ils disaient, il quitte sa zone de confort pour faire en entrepreneuriat.
Il va sur l'eau.
Il part à zéro. il nous dit, tiens, je pars en Angleterre, je plaque tout pour apprendre l'anglais. Bon, c'était quand même pas ça. Donc, c'est un clin d'œil à mes parents voilà, qui m'ont soutenu toujours dans mes projets, qui ont été extrêmement présents. J'ai la chance d'avoir une famille très proche, très soudée. Et ça me touchait voilà, de leur faire un petit clin d'œil. Voilà, cette musique.
Do you speak English now?
A little bit more than before.
Excellent.
Ouais, maintenant, il a des clients étrangers, donc il est obligé de s'y mettre.
Exactement.
Et est-ce qu'ils sont très, très exigeants, ces clients? Comment ça se passe? On sent que vous aimez cette relation. Y a tous les styles, des jeunes, des retraités, racontez-nous cette expérience client.
C'est une excellente question, Fabienne.
Enfin, excellente c'est pas trop tôt, question. Ça laisse terminer l'émission.
À 8h51, enfin une.
Non, c'est une excellente question. Évidemment, on pourrait penser que l'immobilier locatif s'adresse à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent se constituer un patrimoine. Pas du tout. Vous pouvez, à 30 ans, acquérir un bien locatif. Si vous êtes en CDI, vous avez une situation stable, parce qu'il faut quand même convaincre les banques. Mais si vous avez un tout petit peu d'apport et puis que vous allez faire un prêt bancaire...
C'est combien un petit peu qu'on est un ordre de grandeur?
Vous pouvez aujourd'hui 150 000 euros de budget total. Donc pour un investissement locatif, c'est globalement entre 130 et 150 000 euros. C'est le budget minimum pour investir sur la première, deuxième couronne parisienne, avec un apport de l'ordre de 10 à 15%, un apport personnel. Donc entre 10 et 20 000 euros d'apport personnel, on fait un prêt bancaire et c'est ce qui permet d'investir dans l'immobilier locatif. Donc ce ne sont pas non plus des sommes totalement faramineuses. Et donc ça s'adresse aux 30-60 ans, j'ai envie de dire, voilà, d'une manière globale. Et votre question sur la suite, Fabienne, c'était...
Le profil des...
Voilà, alors le profil, vous avez des primo-accédants,
ouais.
Vous avez des personnes qui sont propriétaires de leur résidence principale et qui veulent, qui ont trois enfants ou deux enfants et qui veulent se constituer un patrimoine pour le léguer plus tard. Certains qui veulent tout de suite se constituer un patrimoine, donc qui cherchent vraiment la rentabilité, se constituer des revenus complémentaires, donc qui cherchent la rentabilité d'un projet pour immédiate pour avoir ce qu'ils appellent du cash flow. Du cash flow disponible et avoir de la rentabilité.
Ouais.
Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Et pour les internationaux, c'est la même chose.
Et une dernière question d'actualité. Moi, je voulais vous demander justement si on est sur une année record de transactions, beaucoup d'investisseurs, un tiers des transactions l'an dernier dans l'ancien. Est-ce que vous sentez une appétence retrouvée post-crise sanitaire ou pendant la crise sanitaire? Peut-être vous n'avez jamais autant travaillé finalement.
On n'a jamais autant travaillé, vous l'avez dit.
Ça se voit à votre teint bronzé. Non, je plaisante.
D'ailleurs, je vais repartir au ski parce que je suis trop fatigué pour continuer à travailler. Non, c'est évidemment, il y a un engouement aujourd'hui des Français. Ça y est, on est en train de sortir de cette crise qui nous a miné le moral pendant 2 ans. Nous, on a subi 3 confinements tout de même. Malgré le confinement, on a continué à travailler et à faire des projets d'investissement locatif. On sent aujourd'hui un regain d'énergie. Les gens ont envie de profiter et ont envie d'avoir des projets dans la vie, de partir à l'autre bout du monde s'ils le peuvent. De partir en vacances avec leur famille. Et évidemment, le patrimoine, la constitution du patrimoine, ça fait partie évidemment de leurs objectifs quotidiens.
Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez fait un petit clin d'œil à votre famille. Là, c'est un de vos amis qui vous fait un petit clin d'œil. Il s'appelle Édouard Fongardin. En l'écoutant, on va avoir une meilleure idée de votre personnalité. On l'écoute.
Édouard Fongardin, bonjour. Vous êtes l'un des amis de Mathieu Doliveau. Vous connaissez depuis longtemps?
Oui, bonjour. Donc, oui, je connais Mathieu depuis une quinzaine d'années, c'est un très bon ami.
Qu'est-ce que vous partagez ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous êtes rapprochés?
C'est par des amis en commun. On a une passion commune qui est l'équitation, qu'on a pratiquée ensemble déjà il y a une quinzaine d'années dans l'Allier et dans le Berry d'où il est originaire. Donc voilà.
Alors vous montez, c'est plutôt du dressage, c'est quel type de... Ou alors vous avez fait des compétitions, racontez-nous, même acheter un cheval ou le gérer, c'est une activité à part entière?
Alors, à mon niveau, ça sera de la simple balade, mais Mathieu, lui, est passionné effectivement par le dressage et par les concours. Il avait d'ailleurs un sacré niveau, je crois. Et donc voilà, c'est vraiment cette passion commune et l'idée de se retrouver simplement le week-end pour décompresser de nos semaines un petit peu chargées.
Est-ce que vous avez le temps d'en faire quand on est occupé? C'est là où on voit les gens passionnés, ils arrivent toujours à trouver du temps, ou alors c'est quand même un hobby? Comment ça se pratique?
On arrive à trouver du temps parce que coûte que coûte, on aime, voilà, c'est des moments qui sont vraiment privilégiés, qu'on veut garder et qui nous permettent après d'être performants dans notre activité. C'est une sorte de moyen de se vider la tête ou au contraire même de réfléchir à trouver des solutions ou comment améliorer un business, comment progresser. Donc c'est vraiment un moment d'échange et de partage.
Mathieu Deliveau, c'est un jeune dirigeant. Il vous a impressionné? Vous avez tout de suite vu qu'il avait ses capacités de manager?
Il a toujours été effectivement un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui est passionné, qui est très impliqué dans ce qu'il fait et également très perfectionniste. Donc effectivement, le business qu'il a mis en place aujourd'hui lui colle parfaitement à la peau. C'est quelqu'un voilà, qui va réussir et qui est déjà en train de réussir d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous appréciez chez lui finalement?
Sa simplicité, son écoute, son sens du conseil, sa bienveillance. C'est vraiment, on n'a pas beaucoup d'amis dans la vie, mais voilà, ça fait partie des 4-5 personnes qu'on rencontre dans une vie et qui apportent beaucoup.
Merci beaucoup Édouard Fongardin pour ce témoignage. Au revoir.
Alors Mathieu, effectivement, je vous vois bien assis, le dos bien droit, un vrai cavalier de dressage. Vous pouvez nous parler de cette activité?
Non, alors, Édouard, en effet, alors, non, l'équitation, c'est une passion, c'est certain. Les concours, j'ai arrêté il y a bien longtemps aujourd'hui parce que c'est un quotidien très prenant. Voilà, puis il faut un niveau, il faut avoir un cheval qui soit capable de concourir. Donc, moi, je fais de l'équitation maintenant, plus d'extérieur aussi, comme Édouard, en forêt, mais c'est surtout, en effet, l'idée de se vider la tête et de faire autre chose.
Comment s'appelle votre cheval, alors?
Il s'appelle Baroudeur. Voilà. Donc, on a un quotidien qui est tout de même stressant, il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours évidemment, la gestion d'une entreprise, c'est aussi de régler des problématiques. Donc, faut éteindre les feux parfois, il faut être systématiquement sur le qui-vive. Donc, c'est vrai que d'avoir ces moments de liberté, ces moments où...
Qu'est-ce que vous aimez dans le dressage, en fait?
Ah bah dans le dressage, bah c'est évidemment le côté déjà dresser son cheval et puis de pouvoir comment dirais-je, en fait quand on est à cheval clairement on ne pense strictement à rien si ce n'est à son cheval, à la connexion qu'on a avec lui, à son environnement et absolument pas au quotidien et aux problématiques qu'on va avoir le lundi en repartant au bureau. Voilà, clairement.
L'investissement locatif pour les chevaux, ça n'existe pas encore?
Pas encore, mais ça pourrait le devenir. C'est un beau business model, Fabienne, et on pourra le développer.
Mathieu Deliveau était notre invité pour ce Mac de Limo, directeur associé chez Imavenir. On a compris pour tous ceux qui veulent investir, voilà, clé en main, en plus avec des promesses de bonne rentabilité dans le Grand Paris et ailleurs. N'hésitez pas à le contacter, bien évidemment. C'était un plaisir de vous avoir, Mathieu.
Fabrice, plaisir partagé. Fabienne, un grand merci pour votre invitation à tous les deux.
Merci Mathieu.
Et on va se quitter en musique avec une nouvelle chanson de soirée, même s'il est 9h dans quelques minutes. On va écouter Les Lacs du Connemara. Bien sûr, de Michel Sardou. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.
À très bientôt.
Merci Fabrice.
Merci. Au revoir.
Le ciel irlandais était en paix. Marina plongeait nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Marina aussi, l'église en granit de Limerick. Marina dit oui.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.